Père Clément Monestier, bonjour, ravi de vous avoir avec nous sur notre onde de Radio Maria France.
Bonjour.
Bonjour mon père, et c'est une deuxième intervention sur notre antenne que vous nous offrez gracieusement. Nos auditeurs ont eu la joie déjà d'entendre votre témoignage, mais certainement pour leur rafraîchir la mémoire, en tout cas, ils peuvent, je le rappelle, écouter toutes ces émissions en podcast sur notre site internet radiomaria.fr. Mais retournons à ce qui nous intéresse dans le cœur de cette émission, c'est comment le doigt de Dieu s'est posé dans votre vie, comment la vocation a-t-elle germé en vous ?
Alors, la vocation, elle a germé assez tôt, parce que j'étais enfant, vers même jeune, 12-13 ans, eh bien, j'avais cette idée d'être prêtre, voilà. Alors, c'est un appel qui est un peu étonnant, parce que j'ai vu dans mon histoire que quel que soit l'âge que j'avais, et donc aussi les conceptions de ce que pouvait être le prêtre, ce que pouvait être la mission, c'est-à-dire que ça change avec l'âge, hein. On n'a pas la même idée du prêtre quand on a 12 ans, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans. Et puis même depuis 7 ans que je suis prêtre, je n'ai pas la même vision du prêtre que le jour de mon ordination.
Vous allez nous dire laquelle vous avez maintenant aussi après pour savoir.
Mais ce que je dois dire d'abord, c'est que la seule chose qui est fixe, si je puis dire, c'est l'appel de Dieu. Hein. C'est cette conviction intérieure qui n'a pas changé depuis le moment où j'ai ressenti la première fois cet appel, la conviction intérieure que le Seigneur m'appelle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau de l'appel de Matthieu. Jésus pointe le doigt vers lui. Et c'est lui qui est visé et quelque part, il est concerné. Oui. La première manière de ressentir un appel, c'est de se sentir concerné par ce regard de Jésus qui vous regarde et qui vous dit « c'est toi que j'appelle à être prêtre hein. ». Et j'ai toujours senti ce regard de Dieu sur moi et qui m'appelait à être prêtre. Hein. Vous savez, dans l'Évangile, si on regarde les différents personnages qui tournent autour de Jésus, chacun prend place autour de Jésus, chacun va à sa place. Ouais. Eh bien, les apôtres, par exemple, ils, dans la rencontre initiale qu'ils font avec Jésus, ils se découvrent dans le regard de Christ. Et ils vont prendre leur place, vous voyez. Et donc, moi, la mienne, c'était d'être prêtre. Je le savais depuis le début. Le Seigneur m'a fait beaucoup grandir, cheminer depuis. Hein. Mais je vois la fidélité de son appel sur moi. Et ça, c'est la chose qui me paraît aujourd'hui la plus importante parce que c'est lui qui est maître de nos vies. C'est lui qui est maître de notre appel. Hein, ce n'est pas nous qui inventons la mission. Alors évidemment, quand on veut bien faire humainement parlant et donc on veut porter la mission. Mais en réalité, on va vite comprendre, notamment si on est vraiment dans la prière, que c'est le Seigneur qui porte notre mission. C'est parce que c'est lui qui nous a appelés. Il sait d'où on vient, il sait où on va avec lui, et il sait comment il va se servir de nous, pourquoi, à tel moment, pour être son témoin. Oui. Donc, l'histoire de ma vocation, alors, j'ai ressenti la vocation, l'appel assez tôt, vers 12-13 ans. J'étais dans un petit séminaire à l'époque, qui était tenu par la congrégation de la Légion du Christ. Voilà. Et j'étais quelques années là, puis après je suis sorti, j'étais à l'université, mais avant de retourner au séminaire, l'idée ne m'avait jamais vraiment quitté d'être prêtre. Je savais au fond de moi que le Seigneur avait posé son regard sur moi pour ça, et que là, je trouverais la liberté et même la plénitude dans ma vie. Voyez.
Et vous avez fallu franchir un pas à un certain moment, ou faire une rencontre décisive ?
Une rencontre décisive. Alors, je ne suis pas tombé sur le chemin de Damas comme saint Paul, mais je crois que, vous voyez, dans la Bible, il y a le cantique des cantiques qui illustre pas mal mon histoire, je crois. Et le cantique des cantiques illustre de manière imagée la relation de Dieu avec son peuple en la comparant avec la relation du fiancé et de la fiancée qui se cherchent notamment dans le désert. Voyez, et les différentes circonstances qui les éloignent vont être aussi des circonstances qui vont les rapprocher. Voyez. Et ça, c'est caractéristique de la pédagogie de Dieu avec son peuple. Et moi, je dirais que c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu des différents moments dans ma vie qui auraient pu m'éloigner du Seigneur, mais qui aussi m'ont approché, et qui ont été des moments à chaque fois où c'est comme si j'avais découvert une nouvelle facette de Dieu, une nouvelle facette de ma relation avec Dieu et de ce que Dieu pouvait changer dans ma vie. Et donc petit à petit, des choses se sont construites et petit à petit, ma relation avec le Seigneur s'est édifiée aussi.
À vous écouter, et vous choisissez certainement à dessein de parler du Cantique des Cantiques, qui est un chant d'amour, ça donne l'impression que cette note sponsale, cette note des épousailles, cette note du jeu d'amour que joue la sagesse avec ses créatures, avec ses enfants, est quelque chose qui a donné un axe à votre parcours. Je me trompe?
Non, non, c'est bien ça. Et notamment, un élément central dans cette relation, c'est Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle par-delà les circonstances, par-delà l'histoire. En fait, et même avec lui, on peut être, je suis capable, et je pense qu'on peut tous le devenir, je suis capable de relire mon histoire en voyant comment est-ce qu'il a agi, comment il a été présent, même si ce n'était pas forcément d'une manière que j'aurais compris facilement à l'époque. Dans tous les moments clés, il était présent et il a posé le cheminement qu'il voulait pour moi. Hein? Et c'est vraiment c'est la fidélité de Dieu, moi, qui me parle.
Et vous me parlez de cette fidélité de Dieu. Et est-ce qu'il y a eu, au sein de votre parcours au séminaire, est-ce qu'il y a eu des heurts, des difficultés? Ou bien est-ce que vous avez senti cette main de Dieu qui est toujours là et qui vous permettait de traverser sereinement, tout de même, et dans la paix qui vient de lui, tout ce qui est demandé pour former un serviteur de Dieu, un prêtre?
Alors, j'ai pas eu... En fait, c'est une bonne question que vous posez, parce que même si j'ai senti de manière très claire depuis très longtemps l'appel à la prêtrie, j'avais pas forcément une idée très claire de où et comment. Oui. Et notamment quand j'étais plus jeune, j'avais donc aujourd'hui je suis prêtre diocésain, mais je savais pas trop quand j'étais jeune. Notamment, j'avais l'intention d'intégrer une communauté. Peut-être j'avais peur d'être prêtre diocésain, ça, et j'étais pas prêt à l'accueillir du moins. Et donc, j'avais fait pas mal de recherches en ce sens-là, oui. Mais le problème, c'est que on peut répondre que à la vocation que Dieu nous a donnée, pas la vocation qu'on s'imagine. Alors, je regardais certaines communautés que je trouvais très intéressantes et sympathiques, mais je sentais pas l'appel particulier. J'ai jamais eu le sentiment d'être concerné par telle ou telle communauté comme j'ai pu l'être vraiment par l'appel au sacerdoce, voyez. Donc j'ai cheminé comme ça dans mon séminaire, et puis j'ai intégré donc le séminaire diocésain, puisque je sentais bien que le seul appel que j'avais, c'était d'être prêtre. Donc ça m'a amené à être prêtre diocésain. Donc j'ai fait mon séminaire à Notre-Dame-de-Ville, à Vénasque, qui est une branche du Carmel, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs pour la formation spirituelle qu'on y a reçue. Voilà. Mais c'est vrai qu'après maintenant 7 ans d'ordination, 7 ans de ministère, je vois quand même le besoin d'être nourri intérieurement et renouvelé intérieurement une spiritualité, un charisme qui me porte. Hein, ouais. Et justement, depuis un an, j'ai découvert, alors que je ne l'attendais plus, pour tout dire. Alors, ce n'est pas une communauté, c'est le chemin néo-catéchuménal, qui est un charisme très particulier dans l'Église, qui consiste à revivre les étapes d'initiation chrétienne. J'ai découvert ce chemin néo-catéchuménal qui vraiment me parle beaucoup et répond à beaucoup de mes aspirations pour pouvoir... je dirais... De la même manière que j'ai senti l'appel au sacerdoce et que je me sentais concerné comme si c'était une question pour moi. Et bien là, de la même manière, je sens que c'est quelque chose pour moi et que le Seigneur m'y attend. Voilà. Et j'y vis beaucoup de choses pour me renouveler dans ma foi, dans mon ministère, mon parcours.
Peut-être mon père, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent ce chemin néo-catéchuménal, vous parlez de revivre au fond l'initiation chrétienne, donc qui s'ouvre par le baptême, ensuite la Sainte Eucharistie, la confirmation. Comment se vit, est-ce que c'est une mystique qui est particulièrement ancrée dans les sacrements de l'initiation chrétienne que je viens de citer, ou alors un attachement plus grand, on a le nom de catéchuménal, c'est-à-dire d'enseignement catéchétique, c'est-à-dire d'enseigner la sacra doctrine à
Alors,
la sainte doctrine, la sainte science.
Alors, c'est pas très connu en France, le chemin de catéchuménal. C'est un petit peu, c'est dans la ligne des communautés, des nouvelles et de nouveaux mouvements, hein, qu'il y a eu après Concile Vatican II. J'allais faire une comparaison avec la communauté de l'Emmanuel, mais puis c'est pas la même forme canonique. On peut faire la comparaison. Petite historique, en fait, c'est né dans les bidonvilles de Madrid dans les années 60, où là, il y avait quelques gitans qui savaient pas lire et écrire, et donc certains catéchistes du diocèse de Madrid sont allés les évangéliser. Ils ont fait une petite communauté qui célébrait deux fois par semaine la parole et l'Eucharistie. Et l'Esprit Saint s'est vraiment impliqué, hein. Et si je puis dire, cette communauté a pris feu autour de ses initiateurs, Kiko Arguello et Carmen Hernandez. Et donc, ils ont initié avec cette petite communauté un cheminement pour se réapproprier toutes les étapes qu'il y avait dans l'Église antique, en fait, pour faire des chrétiens, si je puis dire. C'est-à-dire que le catéchuménat, au sens fort du terme, c'est-à-dire que dans l'Église antique, devenir chrétien, c'était toute une affaire. Oui. Et par étapes, on vérifiait vraiment, on avançait dans la progression pour devenir chrétien et on vérifiait à chaque étape que le catéchumène avait bien évolué dans sa vie de foi pour correspondre à ce qu'on attend de lui pour qu'il puisse être digne en fait d'être un chrétien. Voyez? Et c'est un charisme que je découvre qui est très fort. Et je pense qu'on aurait tout à gagner à le découvrir aujourd'hui en France parce que un aspect important, c'est de découvrir notamment qu'au centre de tout, il y a la croix du Christ qui nous sauve. Hein. Et par la foi, eh ben, on peut entrer dans cette croix qui nous guérit du péché et qui met en nous l'amour de Dieu et qui nous rend capable d'aider notre prochain dans la dimension de la croix du Christ, c'est-à-dire qu'en voyant dans l'autre la présence du Christ crucifié. Voilà. Et la communauté néo-catéchuménale, une petite communauté qui fait 30-40 personnes, eh bien, on progresse ensemble dans la foi, c'est aussi ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien pour nous-mêmes, on est chrétien pour être témoin de l'amour de Dieu pour notre prochain. Hein? Et c'est ce qui se vit dans la Trinité, hein? Dans la Trinité, le Père est Père pour le Fils est Fils pour le Père, l'Esprit Saint l'est pour faire le lien entre les deux. Chacun ne vit pas pour soi, mais pour son prochain. Et nous, dans l'Église, c'est ce qu'on est appelé à vivre, et donc devenir chrétien, ça implique nécessairement une communauté qui vit ça. Et c'est pour ça que le cheminement néo-catéchuménal se fait en communauté, où on apprend à aimer notre prochain comme le Christ l'a aimé, et en voyant en lui la présence du Christ. Voyez. Voilà. Alors c'est un cheminement qui est très long, hein. Ça se fait sur une vingtaine, trentaine d'années. Et puis ce qui me marque aussi dans ce chemin, c'est le concept qui consiste à précisément être en chemin. C'est-à-dire que la foi chrétienne, c'est pas quelque chose de statique. On est toujours en train de marcher vers Dieu. On n'est jamais, surtout pas, en train de se reposer sur nos lauriers. Il faut que notre vie chrétienne soit un chemin de conversion permanente. Hein? On n'a jamais gagné. Les choses sont jamais acquises. Hein? Vous savez, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de capital. Hein? C'est pas comme mon compte en banque où j'ai des sous et je peux me reposer dessus. Non, non, non. Ce que j'ai, comme dit saint Paul, je l'ai en Dieu. Hein? Mon orgueil est dans le Seigneur. Tout ce que je l'ai en Dieu. Hein? Mais si je grandis pas, je peux aussi bien tout perdre. Mais si je reviens vers Dieu par la conversion, je peux aussi bien, comme le bon larron, tout regagner. Vous voyez? Et donc, ce qui est important dans notre relation avec le Seigneur, c'est de jamais se reposer sur nous-mêmes, mais d'être toujours en marche, en conversion, pour nous raccrocher en permanence à lui et apprendre à voir dans notre histoire sa présence pour comprendre le plan de Dieu sur notre vie. Hein. Voilà.
Et un chemin, mon père, une échelle, l'échelle des pécheurs pour aller à Dieu, et une échelle que connaissent bien nos auditeurs de Radio Maria France, qui est la radio du rosaire, c'est aussi le cœur immaculé de Marie, pour lequel aussi vous avez un attrait et une dévotion particulière.
Oui, c'est vrai, hein, c'est important, ce cœur, le triomphe du cœur immaculé de Marie, comme Marie nous le dit à Fatima, il va venir... Je me demande toujours en quoi ça consiste, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Je crois, d'abord, il y a une première caractéristique vraiment que la présence mariale donne dans l'Église, c'est, j'en parlais à l'instant, mais Marie nous y réamène en permanence, c'est la conversion. Hein. C'est dans l'Évangile, Jésus dit, dans l'enclos, il faut passer par la porte. Le mercenaire, lui, il voudrait bien passer par à côté. Hein, non. Et la porte, c'est quoi? La porte, c'est la croix. La porte, c'est la Pâque du Christ. Et donc, pour nous, la porte, c'est la conversion. Oui. Et parce que un grand risque dans l'Église, c'est de transformer l'Évangile en une sagesse humaine, un humanisme sympathique, certainement. Hein, Jésus, quelqu'un d'intéressant. Hein, mais Jésus n'est pas un humaniste de plus. Jésus est le Sauveur. Et il faut avoir avec lui la relation qui convient. C'est, il est notre Sauveur. Et en lui, nous trouvons la conversion du cœur. Et Marie, en fait. Si on regarde sa présence dans l'Église, elle a toujours cette posture qui consiste à nous montrer cette porte de la conversion. Hein. Si vous allez à Lourdes ou à Bédugorier, vous verrez, ou à Fatima, c'est la prière du cœur, la confession, l'Eucharistie. Vous voyez, rencontrer Jésus vivant dans notre vie par la conversion. Hein. C'est ça, c'est ce message très simple. Très basique, on pourrait dire même, mais très fondamental, auquel Marie nous ramène en permanence. Et donc, c'est très important que Marie triomphe dans notre foi pour nous mettre tout le temps sur ses rails de la conversion et que nous n'en dévions pas. Voyez. Et puis, il y a un deuxième aspect, je crois, qui correspond vraiment au triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est l'obéissance de la foi. Parce que Marie, en étant Immaculée Conception, elle a une caractéristique que nous on n'a plus, c'est qu'elle n'a pas été touchée par le péché originel et donc par la première faute d'Adam et Ève, qui est la désobéissance. Oui. Et l'orgueil a produit la désobéissance dans notre cœur. Oui. Et le baptême a purifié notre cœur pour enlever la racine du péché originel et avec la désobéissance. Oui. Mais ça veut dire que quand on va rencontrer le Seigneur, notre démarche de foi doit être pas seulement une démarche de foi, mais une démarche d'obéissance de la foi. Et c'est ce à quoi, je crois, Marie veut nous mener, voyez. Parce que Jésus dit dans l'Évangile, hein, vous avez fait des guérisons, des miracles en mon nom, mais je ne vous connais pas. Mais comment ça se fait? Pourtant, ils ont eu la foi pour faire des miracles au nom de Jésus. Non, il leur manquait une chose. Il leur manquait la démarche d'obéissance de la foi, qui n'est pas tout à fait pareille. Abraham a eu cette obéissance de la foi. C'est pour ça qu'il est notre Père dans la foi. Et c'est quoi l'obéissance? C'est de répondre à la parole de Dieu comme une parole qui m'est adressée et que je vais mettre en pratique. Hein. Quand Marie lui avance à l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole, elle répond à la parole de Dieu dans l'obéissance de la foi. Et c'est très important parce que c'est le signe que l'Esprit Saint agit vraiment dans notre démarche de foi.
Hein. Père Clément Monastier, nous avançons vers le terme de cette émission, et vous nous l'avez promis, vous nous disiez qu'on a une vision du sacerdoce lorsqu'on est jeune, lorsqu'on débute, et maintenant, après avoir obéi, après avoir une oreille de disciple, au bout de quelques années, au service du Seigneur, dans le sacerdoce, quel est maintenant, pour clore cette émission, quel est maintenant votre regard sur le sacerdoce?
Je crois que le prêtre, Saint Jean-Paul II disait, le prêtre rend de manière mystérieuse, le prêtre rend présent de manière mystérieuse la mort et la résurrection du Christ. Et en fait, je crois que c'est ça le prêtre. C'est-à-dire que c'est pas tellement dans la qualité des activités, des choses qu'on va faire dans la paroisse, même pas à la force de la prédication, même si c'est important, c'est très important, c'est de vivre au milieu du peuple de Dieu la sanctification qui fait de nous des saints, qui fait du peuple de Dieu des saints. Hein. C'est dans la liturgie, mais aussi dans notre rapport aux fidèles. Alors, ça ne consiste pas à être un ange, hein. Ça consiste à vivre la conversion au milieu des fidèles. Au début, aujourd'hui, c'est un aspect du sacerdoce qui, en fait, est fondamental au sacerdoce, qui me paraît de plus en plus important. Et je dirais plus que ça, on savait qu'on n'est pas parfait, nous, les prêtres, hein, et pas forcément pour des choses graves. Hein. Mais en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire, parce que la lettre aux Hébreux nous dit que pour être un prêtre, il ne faut pas être un ange. Hein. Il faut être un homme pris parmi les hommes. Mais dans nos faiblesses, dans nos défauts, même de simplement dans la simplicité de ce qu'on est, eh bien, la sanctification du Christ, la sanctification, ce passage de la mort à la résurrection avec le Christ se vit. Hein, et c'est ça qui se vit dans nos communautés chrétiennes, et c'est ce que la présence du prêtre rend présent. Peut-être pas en permanence aussi fort que dans les sacrements, mais sa présence est le signe de cette mort et cette résurrection dans laquelle la communauté chrétienne entre. En permanence. Et le prêtre, c'est ça, c'est la sanctification que donne la mort et la résurrection de Jésus au milieu du peuple chrétien.
Père Clément Monestier, un grand merci de nous avoir fait la charité de revenir sur notre onde pour nous livrer un peu plus de votre témoignage de prêtre.
Merci à vous.
Chers auditeurs, c'était notre émission Témoignage de prêtre. Nous étions avec le Père Clément Monestier. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.